Progueurs, progueuses, ici vos gars du prog!
Alors bonjour, chers progueux et progueuses, et bienvenue à ce nouvel épisode des gars du prog, toujours en compagnie de mon fidèle acolyte de la musique complexe, monsieur Philippe Tremblay. Comment ça va, mon fils?
Ça va vraiment bien. Des fois, j'aimerais qu'on fasse plus d'épisodes. Ce rendez-vous mensuel, là, je l'attends toujours avec beaucoup d'impatience.
C'est la même chose pour moi, puis tu sais, c'est que moi, j'écoute les tunes, on écoute les tunes, on écoute les albums, on se prépare, tu sais, je veux dire, moi, ça me pousse à écouter de la musique, faire ce podcast-là. Fait que,
ouais.
Moi aussi, je m'ennuie de ça, mon fils. Si tu savais, en ce moment, c'est juste la vie qui m'empêche. Mais je m'ennuie de nos rendez-vous bimensuels qu'on a fait.
Écoute, peut-être cet hiver, on va pouvoir augmenter la cadence. Qui sait, on verra. On promet rien aujourd'hui. Mais en effet, ça dirige beaucoup mon écoute. Ça me force beaucoup, beaucoup à écouter de la musique que j'aurais peut-être pas écouté. Puis ça, c'est un bon... Bonne façon de nous amener vers le sujet d'aujourd'hui, qui est l'album In Absentia, je sais pas comment le prononcer, du groupe Porcupine Tree, un album que je n'avais jamais écouté. C'est quoi, toi, ton rapport avec cet album-là?
Comment dire, man? C'est la première fois que j'ai écouté une pièce de cet album-là, c'est quand j'avais LimeWire, quand j'avais 13 ans.
Ouais.
Parce que, genre, j'avais sûrement vu sur un forum, genre, tu sais, moi, c'est à l'époque que je fouillais sur Wikipédia abondamment, genre.
Ah ouais, on a passé par là tous les deux.
Ben, tu sais, on s'entend, je pense que Porcupine Tree, c'est pas mal un des plus gros groupes de prog, genre, tu sais, des 20 dernières années, puis surtout du prog moderne, tu sais, puis surtout qu'à l'intérieur du groupe, il y a deux musiciens fous, là, il y a Steven Wilson, qu'on adore, et il y a le batteur Gavin Harrison, qui est un des meilleurs batteurs du style. Mais moi, c'est la tune Blackest Eyes que j'avais entendue, puis c'était à l'époque que je trippais sa musique tellement pété, puis tu sais, en tout cas, on rentrera dans les détails tantôt, mais j'avais entendu le refrain, puis c'était tellement catchy, que j'étais comme, oh, je m'attendais pas à ça en écoutant ça, fait que tu sais, j'avais écouté un peu l'album il y a longtemps, mais ça devait faire 15 ans que j'avais pas écouté cet album-là.
Ok, moi je pensais que t'étais un adepte de ce groupe, parce que je sais que les fans de Porcupine Tree sont vraiment... Ils sont très très fans. C'est vraiment comme ils considèrent que c'est le plus grand groupe. Puis je me souviens au secondaire, je connaissais un gars qui ne jurait que par ce groupe-là. qui capotait sur. Je ne sais plus c'était quoi. Je pense que c'était The Incident ou quelque chose de même. Un album là, qui est la main. Là, quand c'était sorti, là, il en parlait tout le temps. Puis j'ai souvent les gens à qui je parle de ce groupe-là, ils m'en parlent comme si c'était le plus grand groupe de tous les temps, puis j'ai toujours été un peu sceptique par rapport à ça, mais je sais pas, je pense que le hype m'avait un peu gardé à l'écart, mais je suis content d'avoir finalement une excuse de plonger, c'était le fun de découvrir de nouvelles musiques comme ça, j'ai l'impression que tout le monde a écouté sauf moi, mais je suis vraiment surpris de savoir que t'étais pas, j'étais sûr que t'étais un fan fini de ce groupe-là, c'est drôle.
Ah, zéro, man, pour vrai, en fait, c'est l'idée de te proposer cet album-là, le dernier coup, c'est en jasant avec Francis Grégoire, mon claviériste.
Ouais.
Une machine, mais tu sais, puis lui, c'est un fan fini. T'sais, comme tu dis, c'est un peu comme les fans. Pour moi, genre, les fans de Porcupine Tree, c'est un peu comme les fans de Radiohead. T'sais, c'est des gens qui trippent tellement sur cette bande-là quand ils trippent dessus. Puis c'est ça, on en jasait, puis il m'a fait entendre des affaires. Je pense que c'est parti d'une discussion sur hey, c'est quoi tes lignes de bass prog préférées, puis il m'a fait entendre une tune de Porcupine Tree. T'sais. Puis j'ai dit hey, tu sais, tu quoi, faudrait que j'en écoute plus Porcupine Tree. T'sais. J'en ai pas assez écouté, puis. Je me suis dit que ça serait l'occasion parfaite de te le proposer. Puis qu'on écoute cet album-là qui, je pense, selon moi, est comme leur plus connu, ou du moins leur plus légendaire. Fait que...
C'est celui que j'identifie aussi comme étant leur l'Omanium Opus. C'est celui qu'on parle souvent comme étant le sommet de leur art. Mais après, on va faire un peu de recherche. Je comprends que le début de leur carrière, c'était plus un band de space rock qu'un band de rock progressif. Ce qui aurait peut-être changé, notamment avec l'arrivée de Gavin Harrison. Je sais pas. Je suis vraiment pas un expert sur ce band-là, mais... c'est intéressant de savoir qu'ils ont commencé peut-être un peu moins dans le prog, puis plus avancés dans leur carrière, plus ils se dirigeaient vers ce son-là. Mais non, c'est le fun de savoir que toi aussi, t'as un peu découvert l'album. C'était-tu la chanson Strip the Soul qui t'a fait écouter? La ligne de bass est assez iconique, là.
Exact. C'est, ouais. c'est, je pense que c'est, ben, c'est une sacrée bonne ligne de bass, en effet.
Quand même. Oh, oui, oui, certainement, certainement.
Mais puis, en fait, juste pour vous, chers auditeurs, on va parler de cet album-là. On a déjà commencé, mais en deuxième partie d'épisode, on va vous faire un top 5 sur nos vidéoclips prog préférés. Je pense pas que le rock progressif est reconnu pour avoir... être un style de clip, mais il y en a. J'ai hâte qu'on en parle. Mais sinon, je voulais dire, toi, Phil, y a-tu des découvertes musicales que tu as faites dernièrement?
J'ai vraiment, vraiment beaucoup écouté la chanson Blood Pareil du groupe Coma de Bar. Je sais pas si tu l'ai même entendu à l'épicerie l'autre fois. Fait que c'est fou qu'il se soit rendu dans les. Normalement, la musique d'épicerie, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais elle est vraiment bonne cette chanson-là. C'est comme un. C'est dans la vague le néo-disco qu'on a connu avec les Parcels, avec les... comment on appelle
L'Impératrice.
Ouais, puis au Québec, Chose Sauvage. Chose Sauvage, merci beaucoup. On est un peu dans cette vague-là, puis elle est vraiment bonne la chanson. Puis leur album sort bientôt sur Audiogramme, c'est ça la compagnie de Daniel Bélanger. Puis j'ai vraiment hâte de voir comment ça va sonner cet album-là. Ils ont sorti un nouveau single cette semaine. Puis je l'ai écouté, c'était bon, mais c'était moins bon que la fameuse chanson Blood Pareil qui m'est pas sortie de la tête depuis des semaines. Donc ça, c'est vraiment le fun. Puis je veux dire aussi, c'est assez au travail, j'ai à composer un document assez volumineux. Puis il faut que je me concentre des fois. Puis vraiment, mon choix numéro un pour me concentrer quand je veux vraiment là. Pas distrait par la musique, c'est d'écouter de la musique, des compilations de musique de Nintendo 64. Fait que j'en écoute beaucoup ces temps-ci. Mais ça me remplit de nostalgie puis de bonne humeur, puis en même temps, ben, ça me distrait pas. Donc un mélange de néo-disco québécois et de musique de Nintendo 64. C'est ça que j'écoute ces temps-ci. À part du Porcupine Tree, j'ai écouté une quantité phénoménale dans les dernières semaines. Mais toi, qu'est-ce que t'écoutes de bon?
Ben moi j'ai eu une tournée solo cette semaine. Donc j'allais dans Côte-Nord avec mademoiselle, ma douce, à ma compagnie. C'était bien le fun, mais tu sais, pour me replonger dans le fait de jouer solo, tu sais, d'être tout seul, tu sais, ça peut être très plaisant parce qu'on peut aller n'importe où, mais tu sais, on est un peu tout nu. Puis je pense que le grand défi d'un musicien qui joue solo, que ce soit piano, guitare, peu importe, c'est d'avoir un sens du rythme, un time vraiment solide, tu sais. Fait que j'ai écouté beaucoup l'album Virtuoso du guitariste jazz. Joe Pass, qui est comme vraiment emblématique dans le style guitare jazz solo. Fait que, je m'inspire beaucoup de ça quand je fais cette tournée-là seul une fois par année depuis 7 ans. Fait que je réécoute cet album-là tout le temps pour m'inspirer quand je fais ça.
T'as pas écouté d'album d'Alan Holdsworth pour t'inspirer aussi?
Il est toujours là. Il est toujours là, Alan Holdsworth. Il traîne quelque part. Puis c'est comme aujourd'hui, ça va être un épisode spécial. Tu sais, je veux dire, c'est... Bon, mais oui, en tout cas, bref. Mais lançons-nous, mon Phil, dans l'album In Absentia de Porcupine Tree. J'ai hâte de t'entendre parce que, toi pis moi, je sais que le prog moderne, on n'a pas commencé notre histoire d'amour avec ce style-là, avec cette époque-là. On a commencé avec le vieux prog, fait que je sais que pour toi pis moi, c'est comme de la découverte, mais aussi de. Tu sais, faut comme s'ouvrir à ça. T'sais. Fait que je serais curieux de t'entendre. Comment a été ton expérience avec In Absentia?
Ouais, j'ai vraiment essayé de réfléchir longtemps à comment j'allais approcher ma critique aujourd'hui, parce que je ressens des sentiments divergents ou complexes par rapport à l'album. Et puis là, je vais commencer par un truc, puis là, vous allez dire, bon, voilà, c'est parti, mais cet album-là m'a aidé à comprendre pourquoi j'aime pas beaucoup. Où j'ai plus de difficultés avec ce que j'appellerais la troisième vague de prog. Tu sais, la première vague, c'est bon, Genesis, yes, tout ça. Après ça, on pourrait dire qu'une deuxième vague avec les Marillion, plus des années 80. Là, après ça, t'as l'époque, justement, de mi-90 à mi-2000, qui est vraiment celle où on a Porcupine Tree comme le band emblématique de cette époque-là. Puis là, écouter ça m'a aidé à comprendre pourquoi c'est pas quelque chose qui m'a accroché puis que j'ai beaucoup aimé, c'est que je trouve que c'est plus de la musique alternative que du prog. Je trouve pas que c'est un album qui est si prog que ça, même. à un tel point que pour moi, c'est plus un album de rock alternatif avec peut-être des tendances progressives dans les structures, dans certaines longueurs de chansons, des pièces instrumentales, mais c'est m'aider aussi à comprendre ce que je recherche dans la musique, puis je trouve qu'on a retrouvé dans le prog de, pour dire, de quatrième vague, c'est-à-dire le prog contemporain, c'est le côté un peu, comment dire, j'aime le côté épique, j'aime le côté grandiose, j'aime le côté... Il y a un mot qui s'exprimerait mieux comment je me sens par rapport à ça, mais je ne le trouve pas en ce moment. Alors que le prog, on dirait la troisième vague, là, ce que je dis ici, comme Porcupine Tree, puis ces groupes-là, on est beaucoup plus dans la mélancolie, puis c'est la musique beaucoup plus triste, puis...
Je comprends.
On est beaucoup moins dans le... Il y a vraiment un mot que je cherche ici pour décrire le plus vieux prog. Épique.
C'est très épique quand même, là.
Oui, mais c'est bombastique, tu sais, c'est des envolées, c'est... moi, j'aime que quand j'étais plus jeune, tu fais le prog, quand ça partait, là, puis c'était des épiques ou des grands moments, j'avais envie de lever mes bras dans les airs, puis de... je capte toute cette immensité de musique en moi, tu sais. J'ai pas senti ça du tout dans cet album-là, tu sais. Il y a rien de ça, c'est très mélancolique, c'est... Il y a quelques moments un peu plus joyeux, mais en général, c'est un album qui est assez lourd, puis dépressif, même, j'oserais dire. Il y a un autre truc que j'ai pas beaucoup aimé dans l'album, c'est qu'il y a des chansons qui sont très prédictibles dans leur structure, dans leur structure, où c'est plus heavy, puis ça devient plus calme, puis t'as juste la voix, puis le riff revient, tu sais. Ils font comme 3-4 fois dans l'album, puis ça devient presque parodique, à mon avis, de refaire cette espèce de loop-là. Ils le font dans Black Sabbath, ils le font dans Trains, ils le font dans Sound of Music, ils le font dans... donc ça c'est ce que j'ai un peu moins aimé de l'album. Mais j'ai aimé l'album. Je veux pas dire que j'ai pas aimé. Mais je l'ai aimé comme un album de rock alternatif. Je l'ai aimé comme un album de... peut-être même de métal alternatif à certains égards. Je pense qu'il y a des chansons qui sont beaucoup plus intéressantes que d'autres. Mon bon ami François, qui nous écoute peut-être, on le salue, comme presque à chaque épisode. quand je lui avais dit qu'on faisait la critique de cet album-là, je l'ai vu il y a quelques semaines, puis il m'a dit « Porte bonne attention à la chanson de Sound of Music ».
Ah, c'est bon, ça.
Puis c'est la meilleure chanson d'album, il avait tout à fait raison.
Pour moi aussi, c'est ma préférée.
Mais de loin, vraiment, c'est la meilleure. Le riff de drum m'avait dit, c'est assez iconique, tu vas le jouer, tu vas le taper sur tes cuisses, tu vas l'avoir dans la tête. Il avait 100% raison. D'ailleurs, il y a un fil aussi à la fin, là, après quand ça revient, quand le thème revient, bien entendu, dans la structure que j'ai dit qui se répète. Là. Il y a un super fil de drum. Puis je veux... utiliser ça pour souligner le mix aussi d'album où, comme j'en parlais avec ton incroyable et légendaire guitariste Gabriel, le drum est très présent sur cet album-là, hein. Il est très en avant, presque parfois le lead sur des chansons, tellement il est présent et il est fort, mais c'est pas désagréable, tu sais. Au contraire, ça met de l'avant le fait que c'est probablement leur musicien le plus virtuose du groupe, t'sais. Puis ils mettent ça de l'avant, donc c'est quand même courageux, c'est bien fait. Il y a aussi la chanson Gravity Eyelids, que j'ai beaucoup aimé, qui est la chanson probablement la plus prog de l'album. Je pense que c'est la seule que je qualifierais vraiment, vraiment de prog, parce que, à part parfois les temps de signature un peu spéciales, ou des trucs comme ça, c'est rarement dans l'épique ou dans l'évolution, ou dans le déploiement musical, alors que cette chanson-là, on l'est. Vraiment, on a l'impression qu'on suit un mouvement, c'est comme une histoire. Donc ça, j'ai vraiment... apprécier cette chanson-là. J'ai beaucoup aimé aussi la chanson Prodigal, que j'ai trouvé qui était de bon goût, qui était, était agréable, était moins dépressif que les autres. J'ai l'impression que c'est une chanson qui était peut-être plus dans l'espoir, dans le bonheur. Donc ça a fait du bien. Je trouve que ça nous a sorti un peu de la mélancolie de l'album. Bien sûr, j'aimerais parler des deux premières chansons aussi. Blackest Eyes, qui est quand même un solide riff.
Le refrain aussi est tellement accrocheur.
Très catchy. Puis c'est là qu'on est, encore une fois, qu'on est peut-être plus dans le côté pop aussi dans cet album-là qui est intéressant, que je ne m'attendais pas à entendre. Ce côté pop-là qu'on retrouve aussi dans Trains, n'est-ce pas, qui est la deuxième chanson. Encore une fois, dans un quelque chose d'un peu plus prog, un peu plus alternatif, qui est elle aussi très catchy. Hein. Trains, qui est un refrain qui va aussi vous vous jouez dans la tête, certainement. Mais ça, c'est vraiment, à mon avis, les chansons que je viens de parler, c'est vraiment les meilleurs d'albums. Il y a quelques autres qui sont moins mémorables. J'ai pas aimé l'instrumental. Je sais pas ce que t'en penses, mais...
C'est Wedding Nails?
Ouais, j'ai pas aimé cette chanson. Je pense que c'est ma moins préférée de l'album. Je trouve que c'est un peu mal... Je trouve pas que c'est un groupe qui a l'air d'exceller dans les gros riffs. À part peut-être Blackest Eyes, là, les restes de l'album, quand ils font des gros riffs, je trouve pas toujours que c'est...
Moi, je trouvais ça, personnellement, j'ai bien aimé ça. En fait, je me suis pas encore prononcé sur l'album au complet, mais moi, j'ai trouvé que les riffs étaient quand même assez solides. T'sais, dans le fond, je pense que c'est comme pas metal, c'est un peu entre les deux. C'est peut-être pour ça aussi, des fois, que c'est moins dans le lourd comme on entend dans, mettons, des bands comme Opeth ou quelque chose comme ça. T'sais. En fait, les deux sont très proches, je pense. Michael Akerfeld, je sais pas comment dire son nom, Akerfeld. Puis Steven Wilson travaille beaucoup ensemble, t'sais. Mais non, moi ça m'a plu quand même, cette pièce-là, personnellement.
Ben, c'est une pièce instrumentale, t'sais, pour moi, il faut qu'elle ait des thèmes vraiment marquants, puis souvent, c'était des riffs... des fois, je trouvais que ça faisait un peu amateur, t'sais, premier band de metal qui font des power chords, puis je sais pas, c'était... c'est pas une chanson que j'ai trouvée très agréable, c'est je me suis même surpris à la skipper là, régulièrement quand j'écoutais l'album d'un bout à l'autre.
Ouais, je comprends.
Donc voilà, donc en conclusion, j'ai aimé cet album-là. Est-ce que je trouve que c'est un chef-d'œuvre? Non. Est-ce que je trouve que c'est un bon album? Oui. Est-ce que ça... Mais c'est vraiment ce que ça m'a aidé à comprendre, c'est pourquoi j'aime moins cette époque-là du prog. C'est juste parce que c'est pas vraiment ce que je recherche dans ce genre-là. Puis je suis surpris même que cet album-là soit considéré comme du prog. Je sais pas si c'est les temps de signature, je sais pas si c'est le drum qui est plus complexe. Je suis pas sûr de ce qui définit vraiment que c'est un... du prog, non seulement du prog, mais considéré comme un classique du prog, tu sais. Ça me surprend un peu. Donc voilà, c'est pas mal ça mon impression, mais j'ai hâte de t'entendre. J'imagine que tu l'as aimé, mais j'ai hâte de savoir plus.
Moi, j'ai adoré cet album-là. Il y a aucun doute, t'sais. Puis pour moi, c'est clair que c'est du prog, dans le sens que, tu sais, je veux dire, ça coche bien des cases, il y a des atmosphères, des formes particulières, des métriques particulières, il y a des solos de guitare, il y a... La musique est à l'avant-plan. Pour moi, il y a des guitares acoustiques. Pour moi, ça réutilise beaucoup de. Il y a du mélotron. Pour moi, ça utilise beaucoup les clichés, genre prog. Je pense que c'est différent. Je pense, oui, il y a des influences de la musique pop et de la musique alternative. En fait, je pense même Steven Wilson est un peu quelqu'un qui s'arrête pas au genre en général. T'sais.
Ce qui est correct, hein. Encore une fois, je dis pas que c'est de la merde parce que c'est pas du prog classique, ça, puisque la musique alternative, c'est juste que moi. La musique alternative, c'est un genre que j'aime moins en général, donc c'est sûr que c'est normal, peut-être que ça accroche moins pour moi, tu sais. Mais oui, excuse-moi, continue.
Oh, pas de stress, puis clairement, l'album commence, puis moi je me souviens quand j'étais ado, puis justement, j'avais été surpris par le refrain de Blackest Eyes, là, avec les harmonies vocales, puis tu sais, comme maintenant aujourd'hui, j'aime encore plus ça, tu sais, dans le temps. Pas que j'étais gêné, mais j'étais comme, j'assumais pas encore ce côté-là, tu sais, comme aussi catchy, tu sais. Aujourd'hui, je l'adore, ce côté-là, puis je trouve ça original, même, tu sais. Je pense qu'il n'y a pas d'autre album qui sonne comme ça, je pense que ce band-là a son à eux, puis ils ont vraiment redéfini une esthétique du rock progressif, puis surtout à partir de cet album-là, parce que si je me souviens bien, c'est le premier album qu'il y a Gavin Harrison avec eux.
Je pense que oui, il me semble que j'avais lu ça aussi.
Peut-être je me trompe, là, puis désolé aux fans si je me trompe, t'sais, mais fait que t'sais, on s'entend, t'sais, Gavin, c'est une grosse partie importante du son du band, t'sais, puis...
Ouais.
Pour moi aussi, The Sound of Music, c'était ma préférée. En fait, je dirais que la première partie de l'album, c'est vraiment ma partie préférée. T'sais. C'est quand même un album d'1h08. Le reste de l'album est bon aussi, mais peut-être qu'il m'a moins touché. T'sais. Mais vraiment, le début de l'album, là, moi, j'ai bien aimé aussi la pièce instrumentale. Mais en fait, t'as pas mal tout dit aussi qu'il y a de plein d'affaires. T'sais. Genre, quoi dire de plus? La pochette. Là, j'adore la pochette de cet album-là.
C'est assez iconique quand même.
C'est iconique. T'sais. Pour moi, c'est un peu comme un 21st Century Schizoid Man, mais un peu plus pété. Genre. En fait, ça me rappelle ceux qui ont écouté le film Watchmen, le film de super-héros.
Dr. Manhattan. J'avais pas pensé à ça, mais t'as raison.
Ça me fait juste penser à ça. T'sais, bref, en tout cas, quoi dire de plus? Mais sinon, moi, ça me donne surtout le goût d'aller écouter le reste de la discographie de Porcupine Tree. T'sais, pour vrai, c'est peut-être pas le style de musique ou le style de prog qui me touche le plus. Je pense que des fois, il y a un côté très nostalgique dans nos amours de la musique. T'sais.
Ouais.
Moi, j'ai vu que j'ai peut-être pas grandi avec ça. Puis, je veux dire, c'est peut-être pas au point de créer pour moi une nouvelle nostalgie. T'sais.
Mais je sais pas si je suis d'accord avec toi parce que. Tu sais, on fait des critiques d'albums modernes des fois, puis des fois, on fait des découvertes vraiment qui nous surprennent, qui sont des bands là, qui ont été créés l'année passée, tout ça. Puis, on n'a aucune nostalgie par rapport à ces groupes-là. Puis pourtant, ça nous touche énormément, ça connecte. C'est peut-être parce que leur son est plus proche du vieux prog, ça se peut. Mm-hmm. Mais je pense qu'il y a une esthétique aussi au prog très, très moderne qui connecte avec moi beaucoup. Je sais pas, tu sais. Je sais pas ce que tu penses de ça.
Ben, je dirais que c'est ça. C'est pour ça que je disais de créer une nouvelle nostalgie. Des fois, j'écoute des albums, puis ça me crée déjà des mémoires. Ça me rappelle des choses, tu sais.
Ouais.
Fait que. Tu sais, sûrement qu'In Absentia, je vais le réécouter dans le futur. Je pense que c'est une couple de tunes, tu sais, moi, qui m'ont vraiment marqué. Comme Trains, je l'ai beaucoup aimé.
Ouais.
Je trouve toujours que le sens des harmonies vocales de Steven Wilson est vraiment hallucinante.
Ouais.
Fait que. Je pense que c'est pour ça que ça m'a marqué, mais. Puis bah, le mix de l'album est juste incroyable.
Ouais, ben c'est, ça, on le
sait. Pas, ça sonne, cet album-là. Là. Ça sonne.
Oh, ouais, c'est sûr. Si tu le mets dans un 5.1, ça doit sonner beaucoup mieux qu'un petit MP3 dans mes écouteurs ou dans le char. Là, c'est sûr que c'est un album qui doit vraiment mieux s'apprécier de vraiment bien avec un bon système de son en CD. Vraiment, ça doit être. C'est ça. Puis qu'est-ce que t'as pensé du choix qui est parfois... Bon, moi, je suis toujours indécis sur le choix de mettre une chanson très, très douce à la fin pour conclure un album. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Je sais jamais c'est quoi la bonne réponse, comment bien finir un album. Il y a certains albums qui le font très bien, d'autres qui le font pas bien, mais j'ai pas vraiment de règle. Est-ce que ça va être une chanson épique, une chanson tranquille? Est-ce que ça va être un... J'ai souvent tendance à dire que la meilleure fin d'album, c'est pas l'Ambulance Down, mais c'est Lang Lamb à la Pente, où ils reviennent au thème de la première chanson. C'est une des grandes fins, je pense, du rock progressif, mais qu'est-ce que t'as pensé qu'ils finissent ta chanson avec cette balade-là de piano?
Moi, j'ai bien aimé ça. C'est quoi dans l'album Awake de Dream Theater qui finit avec une pièce qui s'appelle Space Divers? Je pense que des fois, après avoir un album aussi complexe que ça, ou avec autant de texture, d'ailleurs. Autre chose qui est incroyable avec le groupe Porcupine Tree, c'est les textures de clavier.
Ouais. Il fait des bonnes atmosphères quand même, ouais.
Barbary, comment il s'appelle, donc le.
Ouais, je pense que c'est ça, son nom, Richard Barbary.
Exactement, t'es qui un fou. Il n'y a pas des gros solos de synth, là, mais c'est un fou de textures. Bref, mais tout ça pour dire que ça fait du bien. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Je trouve que c'est une belle conclusion. Encore là, tu connais, on se connaît toi. Puis moi, les albums d'au-dessus d'une heure, des fois, faut vraiment qu'il y ait quelque chose à dire pour justifier ça. Je dirais peut-être que l'album était peut-être un peu long à la fin, mais ça, c'est juste personnel. Puis c'est à cause que des fois, je trouve que un album de plus d'une heure, c'est beaucoup de concentration.
Je suis d'accord. Il aurait pu peut-être se bénéficier d'être un petit peu plus court. Je voulais pas le dire parce que, bon, on le dit quasiment à chaque épisode, là, quand un album qui est un peu long, on se dit tout le temps, il aurait peut-être béni. Mais c'est parce qu'il arrive, c'est quand un album est trop long, non seulement c'est que ça manque de la concentration, c'est que c'est sûr qu'il y a des pièces que tu as oubliées.
Ouais.
Tu sais, je regarde là, la liste Heart Attack and a Lay-By, tu sais, je me souviens pas du thème. Je me souviens pas du thème de cette chanson. Puis j'ai écouté l'album plus de 10 fois là, pour ça, en préparation, beaucoup plus, peut-être 20aine de fois peut-être, en préparation pour cet épisode-là. Puis je me souviens pas du thème de cette chanson-là. Donc c'est sûr que. Tu vas en oublier. Elles sont pas tous très marquantes. C'est rare en album d'une heure que toutes les pièces sont. Il y en a. C'est pas commun que toutes les pièces sont marquantes. Moi, je pense que c'est une bonne conclusion à l'album parce que c'est tellement différent du reste. Mais je sais pas si ça aurait bénéficié d'une espèce d'interlude, tu sais, au milieu de l'album. Là, on est vraiment dans la production là, puis la réalisation d'album. Vous savez, chers auditeurs, que c'est quelque chose qui m'intéresse, puis je pense que ça t'intéresse aussi, Carl. Je pense que cette chanson-là va peut-être bénéficier d'être au milieu ou parce que. Mais elle est vraiment belle. Mais après avoir écouté tout ça pendant une heure, il faut une heure, trois minutes, peut-être une autre trois minutes à faire. C'est un peu essoufflant. Puis je trouve que on passe peut-être à côté de la beauté de cette chanson-là qui est très, très jolie. Une jolie chanson. Donc voilà. Donc si vous ne l'avez jamais écouté, je suis sûr que tout le monde ici l'a déjà écouté, mais je pense que c'est une. Je recommanderais cet album-là, ne serait-ce que pour essayer ce son-là, cet aspect-là du prog, cette dimension du prog qui est celui du prog plus nostalgique, plus mélancolique, que peut-être connecte moins avec certains comme moi, mais quand même qui peut s'apprécier là, vraiment. Parce que je pense que c'est un bon album. Je dirais pas que c'est pas bon. J'ai passé un bon moment. Est-ce que je le réécouterais d'un bout à l'autre régulièrement? Peut-être pas. Mais il y a certaines chansons, certainement, que je sais auxquelles. Je retournerai avec grand plaisir là.
Ah, absolument, mais je pense que c'est un album aussi qu'il y a des bonnes tunes que tu peux écouter tout seul. Donc,
absolument.
Je pense que Sound of Music, Trains, puis Blackest Eye, ça s'écoute très bien en mettant ça dans ta liste de lecture prog ou quelque chose. Donc, yes, ben, en tout cas, moi j'ai adoré l'album. Je donnerais minimum un 4 étoiles sur 5. Donc,
moi, je donnerais pas de cote pour celle-là. J'étais un peu. Comme je disais, j'ai des sentiments un peu conflictuels, donc je suis pas sûr ce que j'en ferais, mais. Mais il y aurait une note de passage, c'est sûr, à 100%.
Ben là, au moins un 3 étoiles sur 5.
Sûrement un 3.5.
Tu sais, mais je pense que pour l'impact dans l'histoire de la musique, clairement que c'est un album à avoir dans sa collection en tant que fan de prog, là, je pense.
Ouais. Mais tu sais, même un 4, ça serait pas génial. Tu sais, c'est un bon album. Je pense qu'on se répète, on tourne en rond un peu, mais écoutez-le. Écoutez-le et écrivez-nous à lesgarsduprog@commercialgmail.com. Dites ce que vous en pensez.
Ok, hey, on est-tu rendu à notre top 5 des clips de musique progressive, mon Phil?
Oui. Écoute, comment tu t'y es pris pour faire ça, toi? Moi, quand tu m'as lancé ce défi-là, au début, j'étais un peu pris de court.
Moi, j'ai vu deux façons. T'sais. Pour moi, en fait, en fouillant un peu puis en allant dans ma mémoire, t'sais. Moi, j'ai toujours aimé les clips dans la vie. T'sais. J'ai toujours aimé. On s'entend, les clips qu'on va vous nommer là, ils ont peut-être jamais fait le top 5 anglo ou franco à Musique Plus en 2003. Là, t'sais. Mais.
Je peux vous certifier que le mien, non. Mais peut-être une.
Mais t'sais, bref, je me rends compte que dans le prog, il y a comme trois choix de vidéoclips. Soit un genre de. En fait, quatre même. Soit un clip d'animation. Soit un clip avec des acteurs puis avec une situation. Soit un clip live du band, ou soit un clip genre de lip-sync du band, mais qui joue live, genre, t'sais. Je sais pas si tu comprends qu'est-ce que je veux dire.
Ouais, ben, moi, j'aurais divisé ça de façon plutôt humoristique.
ouais.
Expérimentale.
Je sais clairement quel clip qu'ils vont avoir dans ton
truc. Ben, humoristique ou expérimental ou, comme t'as dit, pseudo-live. Moi, c'est vraiment ça que c'est plus. C'est des groupes plus vastes là, que je te présente, mais c'est un peu comme ça que je l'ai approché, mon top 5. Là. Puis ça m'a demandé. Je sais, on nous a souligné qu'on a fait un top 5 deux fois par accident, les lignes de base. Du prog, et puis qu'on avait apparemment les top 5 complètement différents.
ça, c'est quand même j'adore très comique. Ça.
C'est comique. Mais on le dit tout le temps, hein, c'est le top 5 du jour. On pourrait, dans 3 ans, refaire tous nos top 5, puis peut-être que ça changerait. T'sais. Ça serait peut-être un exercice intéressant à faire. Je sais pas si ça vous intéresserait, chers auditeurs. Mais tout pour dire que, tu sais, il a fallu que je réfléchisse beaucoup à des idées pour ce top 5-là, parce que le vieux prog qu'on parle tout le temps et qu'on écoute, ils n'ont pas de vidéoclip. Jet of Giant, ils n'ont pas de vidéoclip. Moi, c'est tout des trucs modernes. Ça m'a demandé beaucoup de réflexion. Puis je suis sûr que j'en ai oublié des dizaines que je ferais comme t'sais. Fait que c'est pas un top 5 que je suis super confiant, mais bon, je vous l'offre quand même.
Mais il y a une couple de clips de vieux bands, genre. Il y a une couple de clips de Pink Floyd dans le temps qu'il y avait Syd Barrett, genre de bike. Là, ils sont bizarres, ils sont dans un jardin,
c'est puis vrai.
Font une affaire vraiment.
Arnold Lane aussi a fait un vidéo clip.
Arnold
pour ça.
Lane, je sais qu'il y a Moody Blues qui a comme, encore une fois, un genre de performance de Night in White Satin. Un jour, il va falloir parler de Moody Blues.
Je les connais tellement pas, à part cette chanson-là d'ailleurs, mais.
Mais en tout cas, on n'ira pas trop dans les détails, là, mais il y a des albums vraiment cool après. Mais. Qui sont. Même Night in White Satin, j'adore. En tout cas, bref, tout ça pour dire, il y en a une couple, mais. En effet, ça a commencé peut-être plus vers la fin des années 70-80 avec l'arrivée d'MTV, là, toute l'ère du clip.
Ouais. Et moi, j'ai une règle pour ça. J'avais deux règles, à vrai dire. Un, il faut que ce soit vraiment du prog. Donc, j'en avais deux dans ma liste, que c'était limite, admettons. J'en ai parlé, Carl et moi, puis finalement, je les ai enlevés. Puis deux, c'est que je n'ai pas mis de performance live. Même si c'est une performance live officielle. Ça, je l'ai pas autorisé pour mon top 5. Si c'est fait pour toi, bon, c'est tel que tel.
Est-ce qu'avec Lip Sync, ça a été comme, dans le fond, t'es comme tes voiles, comme mettons, Emerson, Lake and Palmer, quand ils jouent Fanfare for the Common Man dans le stade olympique, genre, t'es comme, clairement que juste des trames, est-ce que ça compterait, genre?
Eh là là. Moi, j'en ai pas dans mon top 5, comme ça.
Ok, parfait, c'est bon. Ça répond à ma question parce que ça jouait chaud. D'ailleurs, je peux me lancer.
Mais vas-y, je t'en prie.
Parce que mon top 5, je checkais parce que je sais que Rush ont des clips intéressants. Puis là, je parle pas
de. J'ai pas pensé à Rush, tu vois. J'ai même pas pensé à Rush.
plein des dernières années. Vous irez voir ça, tout le monde, si vous n'avez pas vu ça. Ils ont fait plein de vidéos d'animation sur leur plus grande
tour. J'ai pas pensé à ça. D'ailleurs, je sais pas si c'est YYZ qui ont fait dernièrement là, pour le 40e.
Incroyable.
Il est vraiment cool. J'ai pas pensé à ça pendant tout.
C'est vraiment excellent. Puis, mais je les aurais pas comptés parce que je me dis, moi, je voudrais que ça soit de leur vivant, genre, qu'ils l'aient sorti. Ouais. Comme, pendant qu'il était comme. Considérons que le band Rush a terminé. Là.
Peut-être sur Division, il y a un vidéoclip, mettons, mais j'ai pas pensé à ça.
J'ai Tom Sawyer, je l'ai fait mettre, mais à cause de la raison qu'on a dit, vu que c'est comme une genre de performance live ou le studio. Genre.
Oui, mais c'est bon, mais, ça aussi. Mais en fait, pour toutes les chansons, je pense qu'il y a aussi Witch Hunt qui en fait comme ça, puis c'est très cool. Oui.
Moi, j'ai été avec un choix peut-être controversé, mais j'adore ce clip-là pour les raisons que je vais vous dire, mais c'est The Big Money.
Ah oui, ok, ouais.
Hey, c'est drôle parce que je pense à. Certains pourraient dire genre que ça vieillit d'une manière drôle, mais je pense qu'on est rendu assez loin pour accepter genre que c'est cool. Genre, ils font le clip sur un plateau de jeu de Monopoly. Genre.
C'est vraiment de son époque, ce clip-là. J'ai pensé du tout, mais ouais, c'est un bon choix.
Neil Peart a une petite queue de rat, genre. C'est malade, man. Genre. Puis il y a comme. Il y a des animations. Genre, on dirait le clip de Money for Nothing de Dire Straits. C'est vraiment drôle. Puis la tune est juste tellement bonne. Genre.
Absolument, puis c'est drôle parce que j'avais pas pensé à Rush encore une fois, mais tu sais, Time Stand Still aussi, c'est terrible cette vidéo-là, tu sais, la madame avec sa caméra qui vole dans le ciel. Là,
mais c'est rendu bon, genre, ça a tellement vieilli.
C'est rendu dans le rétro, là, c'est pour ça que c'est rendu.
Exactement, cool, tu sais, moi je trouve ça, ça a de l'attitude, tu sais, comme ils appellent ça, tu sais, je déteste cette expression-là, mais le kitsch, là, le keten, là.
Ouais.
Tu sais, ça en vient mané que ça passe et ça, puis que ça en vient intéressant. Un peu comme les gens aujourd'hui qui se réhabillent de la manière des années du début 2000. Tu sais, nous, il y a 10 ans, tout le monde était comme, ben voyons donc, les gens s'en viennent de même. Mais aujourd'hui, c'est revenu à la mode. T'sais, fait que...
Ben, je pense qu'il y a deux visions que tu peux avoir par rapport à l'art plus ancien. Est-ce que tu vois ça d'une vision de comment dire, de marketing, ou tu vois ça d'une vision d'histoire de l'art?
Ouais.
Si tu vois ça d'histoire de l'art, c'est sûr que c'est trippant parce que c'est un produit de son époque, ça a une signification, c'est des symboles, c'est des technologies de son époque, donc c'est intéressant. T'sais. Si tu vois ça sur cet angle-là, il est cool ce clip-là. Si tu vois ça comme un produit marketing et technologie, c'est nul. Mais...
Ben, c'était révolutionnaire sûrement pour l'époque.
Oui, mais aujourd'hui, encore une fois, comme tu disais, avec nos standards d'aujourd'hui, tu regardes ça, bon. Fait qu'il faut se mettre les bonnes lunettes quand on regarde ce truc-là. Mais c'est un excellent choix, car j'avais pas pensé à ça pendant tout.
Surprenant quand même. Mais sérieusement, ça, je te dis, ça vaut la peine.
Ouais, allez voir ça si vous l'avez jamais vu. Mon numéro 5, beaucoup plus moderne, c'est la chanson Physical Education d'Animals as Leaders.
Ah, ça c'est bon.
Je sais pas si tu doutais que j'allais la mettre dans mon top 5, mais c'est pas un clip génial, mais c'est un clip qui m'a marqué parce qu'il est sorti à une époque où j'écoutais beaucoup ce groupe-là. C'est un band que j'aime beaucoup, les musiciens du band. Je trouve qu'ils ont l'air chummés, ces gars-là. Tu sais, j'apprécie ça prendre une bière avec eux autres. Puis, le clip, si vous l'avez jamais vu, c'est... donc, le nom de la chanson, c'est Éducation physique. Donc, le clip, c'est les trois membres du band jouent un rôle, disons, typique d'une école. Donc, Tosin Abassi, qui est le directeur, qui arrive à sa Porsche. Puis, il est super bien habillé, tout ça, élégant, il est beau bonhomme, donc il paraît bien. Après ça, t'as Xavier, qui est le professeur de musique.
Ah oui, puis il donne le Matt, gent. Ah ouais.
Puis il y a Matt, qui est le concierge, qui est habillé comme de façon vraiment absurde, en camisole tachée, qui a une grosse bédaine. On voit clairement que c'est un oreiller, ça n'a comme pas de bon sens. Puis le clip, c'est, on suit un bum de l'école, n'est-ce pas, qui
ben, on peut dire un intimidateur, tu sais.
Ouais, c'est ça, c'est un élève problématique qui a un impact négatif sur ses pairs. Donc, au début, il voit le concierge, puis il fait tomber des poubelles, il crache par terre, ça fait de la peine au concierge. Après ça, il va dans son cours de musique, puis il y a une instruction très très claire sur le tableau, c'est plus de cordes. Ça, c'est le heavier, il pointe ça comme ça, là, il faut plus de cordes sur vos guitares. Puis là, il lance un papier mouillé sur le professeur, il se fait renvoyer. Et là, il va chez le directeur, c'est Tosin. Il dit à cette école-là, le karma, c'est la règle. Et justement, ce jeune-là va jouer au ballon chasseur et tout le monde se regroupe contre lui. Et ça finit où il y a une partie de ballon chasseur autour du groupe qui font la performance de la chanson Physical Education. C'est un vidéoclip qui m'a toujours marqué. Je le trouve drôle, je le trouve sympathique. Je trouve que ça joue bien sur les personnalités du groupe. Puis ça se prend pas trop au sérieux. Puis la chanson match juste bien cette vibe-là, tu sais. Donc, ça, c'est, pour moi, c'est un vidéoclip iconique du prog. Donc, voilà, c'est mon numéro 5, c'est Physical Education d'Animals as Leaders.
Ah, ben, wow, j'adore ce clip-là aussi. Peut-être qu'on va en parler plus tard, on sait jamais. Mais, ouais, je vais m'en tenir pour là. Je vais m'en tenir pour là.
C'est bon?
J'en tirerai pas plus. Moi, mon deuxième clip, je retourne dans les années 80, man. J'étais allé avec Another Breaking the Wall de Pink Floyd.
OK.
Je sais pas si tu te souviens de ce clip-là. En fait, ils ont pris des extraits du film puis ils ont fait un clip avec, tu sais.
Ouais. Qui marche, qui marche, tout ça, là.
Exact, avec les enfants qui marchent, qui viennent de la...
Ouais, qui tombent dans le grinder, là, ouais.
Exact, viennent de la du steak haché, tu sais.
Ouais.
Ben, premièrement, j'adore ce film-là. C'est un de mes films préférés. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous le conseille. On pourrait en parler, Mané, d'ailleurs.
Ouais, ça pourrait être drôle. On va pas inviter Francis pour faire un épisode de critique sur...
Another Breaking sur The
Wall. Sur l'album, le film The Wall, ouais.
Mais, tu l'as-tu déjà vu, le film?
Je l'ai pas vu au complet.
T'avais-tu aimé ça du peu que t'avais vu?
Ben, j'étais un peu jeune, je pense.
C'était quand même assez pété.
Ouais, j'étais plus confus qu'intéressé. Je pense qu'aujourd'hui, j'aurais plus d'intérêt pour ça.
Tu sais, il y a vraiment des qualités. C'est ça qui est cool, parce que c'est pas juste un film sur un opéra rock. Il y a vraiment un côté unique au film, puis je trouve que c'est très bien réalisé. C'est le même gars qui a réalisé les Blues Brothers, puis Thriller de Pink Floyd. Thriller de Pink Floyd, qu'est-ce que c'est? Thriller de Michael Jackson.
Ce serait intéressant comme album. Si tu as un projet un peu sauté, là, refaire Thriller avec le style de Pink Floyd.
Ça serait intéressant. En fait, Dark Side of the Moon, reggae, genre, fait que tout est possible.
Ben, j'ai vu, il y a Black Sabbath Jazz aussi, je sais pas si c'est un nouveau band, là, que...
Wow, ben...
Mais c'est quoi le nom du groupe, là? C'est comme un jeu de mots sur une de leurs chansons, puis ils reprennent les chansons de Black Sabbath, mais c'est presque... On les reconnaît presque pas, les chansons. Ben, c'est vraiment comme...
Il y a le Crimson Jazz Trio aussi, là, qui reprennent des tonnes de King Crimson version jazz, puis c'est écœurant, là.
Ils font juste se baser sur les thèmes, dans le fond, puis ça, ils partent avec ça, puis ils s'amusent. C'est vraiment très bien aller voir ça.
Mais, que j'allais dire? Mais non, bref, pour revenir au clip, c'est que, c'est ça. Bref, ça représente extrêmement bien la chanson. Puis même chose avec le film, je pense. Si vous avez jamais vu le film, vous allez comprendre encore mieux l'histoire de l'album, fait que c'est, qui est excellente, selon moi. Puis c'est ça. Fait que pour toutes ces raisons, j'ai mis Another Breaking the Wall. Je trouve que... Ben, encore là, c'est sûrement une des pièces les plus pop de Pink Floyd, là, mais reste quand même que je l'ai Pink Floyd, je considère ça comme un groupe prog, fait que t'sais,
ben oui.
Je l'ai compté.
C'est sûr que c'est du prog, là. Même si c'est pas leur chanson la plus prog, c'est quasiment une chanson de disco. Là,
à 100%. Là. Ouais. Mais
non, mais c'est des imageries iconiques. Là. Moi, c'est drôle parce que tu parles des enfants qui tombent dans le grinder parce que c'est comme une image qui a beaucoup marqué mon père. Il en parle souvent, là, cette image-là.
Ouais, ouais.
Il dit comme quoi c'est une critique du système d'éducation. Là, on prend des personnes uniques et on les transforme en quelque chose d'uniforme, un peu brouillon, mélangé. Pas très intéressant. Donc, je pense que ça a parlé à une génération aussi, cette idée-là qu'il faut comme résister au professeur puis au système d'éducation qui était à l'époque aussi plus conservateur, sans dire, tu sais, pas d'un point de vue politique, mais tu sais, d'un point de vue, tu sais, les anciennes manières. C'est sorti à une époque où on était dans une transition aussi, je pense, de l'école traditionnelle, l'école classique, puis là, on s'enligne plus vers l'époque. Même le cas, c'est un peu tard, là, c'est après l'école classique, mais enfin, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. C'est assez iconique, en effet. Bon choix. Un autre auquel j'ai pas pensé du tout. C'est sûr qu'il y a des trucs auxquels j'ai pas pensé. Des deux sur deux, déjà. Mon numéro 4, c'est un groupe que je parle souvent. C'est que dans la balado. Un jour, peut-être qu'on va faire un épisode sur eux, ça serait cool. Cette chanson-là, c'est pas leur chanson la plus prog, mais c'est un groupe qui est définitivement un groupe de métal progressif et de métal expérimental. Je parle bien sûr du groupe D'Iran Gris. Hein, je parle souvent de ce groupe-là. Et un vidéoclip qui m'a beaucoup, beaucoup marqué dans ma jeunesse, c'est la chanson Obscure. Donc, tu te souviens peut-être de cette vidéo-là, Carl?
Ouais, ça fait longtemps, là, mais...
Ouais, c'est plus leur époque qui faisait du métal, plus métal alternatif, plus métal industriel, enfin. Mais quand même, il y a des... Ils commençaient à s'enligner vers le son plus prog. Mais ce vidéoclip-là, c'est un cauchemar. Puis c'est ça qu'ils voulaient faire. Il y a même un... Allez voir ça sur YouTube, là, la version non censurée, si vous voulez. Il y a un peu de sexualité dans ce vidéoclip-là, mais beaucoup de violence aussi. Mais c'est ça se veut être une espèce de montage d'imagerie cauchemardesque Puis il y a même un documentaire sur YouTube qui montre comment il faisait les maquillages, puis les costumes. C'est complètement fou, là. T'as plusieurs éléments, là. T'as une espèce de carnaval de l'enfer. T'as des membres du groupe qui ont des trucs qui leur sortent du corps. T'as le groupe qui joue dans un congélateur avec des cadavres. T'as un espèce de moine bouddhiste qui s'arrache un genou parce qu'il y a comme un visage dedans. Puis la scène la plus iconique de cette vidéo-là, finalement, c'est une espèce d'homme qui a un masque là, de démon japonais. Je sais pas trop, je connais pas ça tant que ça, là, mais... Et puis qu'il y a une espèce d'immense phallus métallique là, avec un visage au bout qui tourne, qui se promène, puis il y a une dizaine de genre de geisha nus qui comme tourne autour de ça. C'est assez intense, puis assez érotique. Là. C'est pas très sain tout ça, là, mais c'est ça joue définitivement sur la sexualité. Puis la chanson est très très violente, très, très intense comme chanson. Je pense que c'est pas pour tout le monde. Là. C'est un groupe de métal expérimental, faut le dire. Puis c'est un clip qui est assez marquant. Là. Donc, si vous êtes pas peureux, si vous êtes un peu courageux, je vous invite à aller voir ça. C'est une expérience audiovisuelle assez spectaculaire. Malheureusement, ouais. Le clip est plutôt vieux. Et la version YouTube, de ce que je me souviens, est pas très optimisée. Donc, on n'est pas dans le 1080, on est plus dans 360 pixels, donc c'est un peu laid, mais ça vaut la peine. Puis j'adore, j'ai toujours aimé cette chanson-là énormément, c'est une de mes chansons métal préférées. Donc, allez voir ça, mon numéro 4, c'est Obscur du groupe Dirangré.
Ben, pour moi, c'est très obscur d'ailleurs. Ça fait longtemps que je l'ai vu, puis tu sais, encore une fois, je vais sûrement aller le revoir avec tout ça. En fait, je marquais des. Je l'ai marqué sur Google pendant que tu parlais. Puis juste pour aller voir des images de ça, t'sais. Oui, en effet, okay, je me souviens du clip, t'sais, puis oh mon Dieu, c'est un peu traumatisant quand même.
Ouais, c'est vraiment cauchemardesque. Je pense que c'est ça qu'il voulait créer comme imagerie, là. C'est très, très... Ça va très, très vite, les images. C'est comme des séquences constantes d'images. Si vous avez des problèmes épileptiques, regardez pas ça, là. C'est comme si constamment ça change d'image au rythme de la chanson qui est très effréné. Donc pour moi, c'est un chef-d'œuvre, là. Voilà.
Cool. Ben, moi, ça m'amène à mon numéro 3 film, qui est oui. Physical Education de Animal.
Ah, ben, bien. Je m'attendais à ce qu'elle soit là aussi.
Ben, tu sais, je veux dire, je trouve que c'est tellement un bon clip. L'histoire est bonne. Tu sais, comme tu dis, ça colle tellement bien à la musique. Tu sais, puis moi, ça a été par ce clip-là que j'ai découvert Animal as a Leader aussi.
Ah, ouais, ok.
Ouais, ouais. C'est vraiment par. J'avais un élève qui m'avait parlé de ça, puis je suis allé écouter ça après. Puis c'est ça la première chose sur quoi j'ai tombé. Je pense c'est que dans ce temps-là, je me souviens plus du nom de l'album, là, mais de l'album qui a Physical Education. Joy of Motion, le ouais. Rouge, là, merci.
Ouais.
Puis ben, j'ai fait wow, c'est donc bien cool. Je veux dire, l'histoire. Puis comme tu dis, ça montre que les gars, c'est pas qu'ils se prennent pas au sérieux, mais que c'est comme comique, là, t'es un peu. Puis que c'est des bons vivants. Puis c'est ouais. Une des choses que j'aime beaucoup de ces musiciens-là, c'est qu'ils sont toujours en quête de s'améliorer. Puis t'as sens, il n'y a pas peur d'expérimenter et d'aller jouer avec même d'autres musiciens de d'autres styles. Fait que c'est. Ils ont l'air cool.
T'es. Vraiment. Puis ils montrent vraiment dans cette vidéo-là. C'est... Ouais.
D'ailleurs, il faut que j'aille écouter l'entrevue de Rick Beato avec John Petrucci, puis lui, puis Devin Tosley. Fait que ça me rappelle ça. Mais ouais, ben, pour en fait toutes les raisons que tu as dit tantôt, c'est pour ça que je l'ai mis numéro 3 aussi. Je pense que c'est un des bons clips du style. Fait que. Ouais, et voilà.
Comme quoi rendre du djent ou de la musique instrumentale. Intéressante, c'est possible. Tu sais, c'est vraiment un bel exemple de ça. Tu sais. Mm-hmm. Puis je veux souligner aussi que j'ai réécouté les clips ce matin, tu sais, pour être sûr de mon top 5. Puis le commentaire numéro 1 du vidéo, c'est « J'adore cette chanson, elle me rappelle mon père. » Les paroles me rappellent mon père. Donc, il n'y a pas de paroles. Donc, c'est désolant. C'est un enfant qui n'avait pas de père, apparemment. Donc, une petite blague digne de la section commentaires de YouTube. Mon numéro 3. Ouais. Mon numéro 3, je m'attends à ce qu'il soit potentiellement ton numéro 1. Ou si c'est pas cette chanson-là, ça va être une autre chanson dans ce groupe-là. Il faut en parler, c'est un classique. La chanson c'est... Sober de Tool.
Oh! Ok.
Vas-y. Ouais. Moi, je suis un grand fan de stop motion. C'est toujours un médium que j'ai admiré, c'est beaucoup de travail. Puis j'aime beaucoup l'ambiance de ce clip-là. Une espèce de maison. Le petit personnage, on dirait que c'est un cerveau, sa tête, je sais pas trop. Qui ouvre des tiroirs, il ouvre sa boîte. Puis quand il ouvre sa boîte, il se passe des choses. Puis c'est là, si vous allez dire, ok, c'est vraiment comme du détail, mais quand il ouvre la boîte, il coupe les cordes avec un petit couteau. Un petit exacto. Ouais. Puis les cordes tombent d'une façon, moi je trouve ça, c'est vraiment, c'est du très beau stop motion. Je trouve que l'ambiance, la guitare, je parle vraiment de la guitare de pour tout, mais l'espèce d'aspect. Il part d'espèce d'envolée comme ça, cette chanson-là. Ça match vraiment bien l'espèce d'ambiance glauque, un peu oppressante, un peu mystérieuse de ce clip-là. Je trouve ça un des meilleurs clips qui mélange l'image et le son, là, c'est assez intéressant. Je suis pas sûr de ce que l'histoire raconte, tu sais. Bon, il semble qu'elle a au final, la boîte, il n'y a rien dedans. Parce que je comprends, il l'ouvre et il n'y a rien. Mais ça semblait avoir de l'effet sur lui. Bon, je sais pas ce que les paroles de la chanson, j'ai pas porté attention, mais bon, ça parle d'être sobre, donc de pas être sous l'effet de substances quelconque. Donc, je me dis peut-être que l'idée ici, c'est que tu n'as pas besoin de substances pour vivre des émotions fortes. Ou parce qu'il est mené sous sa chaise, il s'envole, il est dans son lit, ça a l'air complètement chaotique. Puis bon, je sais pas c'est quoi le message derrière ça, mais c'est une belle expérience audiovisuelle. Puis c'est assez marquant aussi. Là. Sans être épeurant, c'est un peu comme malaisant, mais d'une bonne façon. Donc c'est toujours un clip que j'ai aimé. Puis je sais qu'ils en ont fait d'autres qui sont iconiques aussi. Là. Bon, je pense à Prison Sex, il y en a d'autres. Là. Mais moi, c'est celui-là, mon préféré. Donc, mon numéro 3, c'est Sober de Tool.
Ouais, wow, ben, je pense, personnellement, j'en parlerai pas plus, encore une fois, mais je pense que Tool, au point de vue de la réalisation des clips, est sûrement un des groupes avec quelque chose de plus fort. T'sais, je veux dire, on ouais. s'entend que je pense qu'ils ont des clips tellement iconiques. Il y en a plein, là. Chacun aurait pu faire le top 5, là, au point de vue de la réalisation. Ouais. Faut dire que Adam Jones, le guitariste, a une formation comme en art visuel puis en effets spéciaux. Là. Il a travaillé dans le cinéma. Fait que c'est pour ça, je pense aussi que c'est vraiment cool.
C'est clair. Puis je sais que c'est un band de l'époque où l'identité visuelle avec MTV puis ça fait, c'était comme essentiel au succès. Ouais. Puis ils ont vraiment, c'est un des bands qui a le plus réussi. Il y a même une certaine esthétique qu'on identifie à ce band-là. Il faut le faire quand même. Là. On pense à tout le marketing puis l'imagerie qui venait avec leur troisième album. Là, enfin, bon, toute l'imagerie un peu psychédélique là, qui est, maintenant c'est comme rendu presque, ils ont presque comme pris cette identité visuelle-là pour eux. C'est assez spécial qu'un band ait réussi à faire ça. Donc, voilà.
Ah, oh, ben, malade. Fait que j'allais dire, donc.
Numéro 2?
Numéro 2. Ouais, alors j'avais rien d'autre à dire pour Sober, mais numéro 2, sûrement que tu vas m'en parler toi aussi, ben c'est Drive Home de Steven Wilson. Je pense que, point de vue animation, encore là, c'est un genre de stop motion. Je me demande vraiment c'est quoi la technique qu'ils ont utilisée pour faire ce clip-là. Ouais. Si c'est un mélange, tu sais, c'est quelque chose un peu d'hybride entre le stop motion puis le travail à l'ordinateur après. Mais tu sais, l'histoire du clip, justement, qu'on découvre que le personnage a perdu sa femme dans son accident de voiture, qui est en chaise roulante, toute la montée, puis on s'entend, la pièce, c'est une des plus belles pièces du répertoire progressif, à mon ouais. sens.
Mm-hmm.
Bah, tu sais, pour toutes ces raisons-là, je pense que ça. C'est, pour moi, c'est mon numéro 2. Mais il aurait pu être numéro 1, mais le numéro 1, je vous le garde pour après. Mais moi, Drive Home, c'est. Je pense que s'il y a bien un clip que je pensais qu'on ait commencé à parler de ce top 5-là, ben c'est ce clip-là. Fait que...
Définitivement, quelque chose d'assez iconique. Puis c'est tellement déchirant. Puis il rend bien justice au moment de cette chanson-là aussi. C'est le solo de guitare qui est un des grands solos de l'histoire du prog. Là. Sinon, le plus grand. Je pense que si quelqu'un dirait ça, je dirais... oui, bon, ça se défend comme opinion, je pense. Là. Ouais, ça raconte bien l'histoire, les personnages sont attachants, c'est triste. Non, c'est vraiment un beau clip, vraiment un très très beau clip. Si vous l'avez jamais vu, allez voir ça, c'est mélancolique, hein, comme on disait tantôt pour In Absentia.
Mm-hmm.
Mon numéro 2?
Ah ouais, donc.
Je suis surpris que tu l'avais pas dans ton top 5. C'est un clip que j'aime bien. Puis moi, je trouve que c'est ton style de clip. Je pense pas que c'est ton numéro 1.
Peut-être j'ai oublié.
Je pense que oui, mais c'est Cockroach King de Haken.
Je suis allé l'écouter.
Les marionnettes, là.
Quand t'as dit comique tantôt, je savais que t'allais parler de ce clip-là. Je vais te laisser d'en parler, puis j'en parlerai après.
Moi, je trouve tellement que c'est du génie de ce clip-là, parce que c'est pas compliqué, là. C'est pas... C'est pour faire ça très très simple, c'est le band, les musiciens du band qui ont été recréés en marionnettes, un peu low budget, là. Puis je pense qu'ils vont faire affaire avec un marionnettiste professionnel parce que c'est bien animé. Ils jouent du piano, ils jouent de la guitare, ils chantent. Même qu'au début, quand l'album ouvre, c'est comme un pastiche de Bohemian Rhapsody, c'est le fond noir avec les quatre visages. Bon, puis ils chantent en chorale comme ça, puis... Je trouve ça le fun parce que, probablement, c'est une de mes chansons préférées de tous les temps. J'adore cette chanson-là. J'ai entendu tellement d'influence. Je trouve que c'est le plus bel hommage qui a été fait à Gentle Giant. Un des plus beaux hommages qui a été fait à Gentle Giant, je pense, dans le prog moderne. Mais c'est que le clip, et encore une fois, j'essaie d'apprécier ça. Ça se prend pas trop au sérieux. C'est sympathique, c'est drôle. C'est charmant, ça n'a aucun rapport avec la chanson, mais c'est pas grave, tu sais, on s'en fout là, des paroles puis de ce qu'il dit au final. C'est juste, je trouve que c'est de bon jeu, moi ça me fait sourire, ça me met de bonne humeur. C'est bien animé, je veux dire, c'est bien animé, tu sais, les marionnettistes qui ont fait ça, ils sont très bons, c'est pas des amateurs. Ça a été fait.
Ça a été fait par une équipe professionnelle, là, tu sais, je veux dire.
Oh, oui, c'est des vrais marionnettistes qui ont fait ça. Là. Quand ils jouent du drum, le drummer...
Ils gagnent les punch puis tout, là.
C'est ça. C'est très, très cool. Donc, si vous avez jamais vu ça, il faut vraiment aller le voir. Là. C'est comique, c'est sympathique, c'est charmant, même. Puis, il faut le dire, la chanson est tellement bonne. Voilà. Donc, mon numéro 2, c'est Cockroach King de Haken.
Moi, je l'ai pas mis pour la raison qui suit. J'adore ce clip-là, mais peut-être je le trouvais, tu sais, comme... trop similaire pendant 5 minutes.
Ouais, c'est vraiment juste ça, hein? C'est sûr. C'est vrai.
C'est mon avis, mais j'adore le clip pareil, puis pour eux, il serait mon numéro 6. C'est ça que j'avais des fois les autres clips. Il y avait de l'histoire, peut-être, ou quelque chose, ouais. Où c'est une performance live, tu peux voir vraiment les vrais musiciens jouer. Fait que...
Ouais. Tu vois, je trouve ça plus fun qu'il ait fait ça qu'une performance live.
Moi aussi, je suis vraiment d'accord. Rendu là, mais c'est pour ça que... En tout cas, bref. C'est excellent. Mais, le côté mopette, c'est vraiment cool. Ouais. Moi, j'aime vraiment le batteur. Il a l'air vraiment comme blasé.
Aussi, j'aime beaucoup, ouais.
Mon numéro 1, ben, c'est une pièce de Tool. Ce n'est pas Sober. C'est la pièce Prize and Sex.
Ben oui.
Encore une fois, pour l'histoire, en fait, tous les clips de Tool, auraient, comme je disais tantôt, auraient pu être mon numéro 5. Parabole, Lateralus, tout ça, c'est complet. Schisme ou Schism aussi, c'est complètement déjanté. Là. Mais dans Prize and Sex, c'est comme cette sorte d'histoire-là d'une poupée qui se fait contrôler de manière malsaine par une sorte d'entité qui ressemble à un alien. Il y a tout un côté avec des tiroirs. C'est vraiment fucked up. Puis enlève, c'est. Tu sais, ça parle vraiment, je pense, d'un enfant qui se fait abuser.
Mm-hmm.
Puis c'est. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Tant qu'à moi, genre, de manière cinématographique, je vois pas juste ça comme ah, oh, c'est un bon clip. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre cinématographique, là, je pense. Sans l'ombre d'un doute. Ben voilà, pour ces raisons, j'aime beaucoup la pièce. C'est ce qui est spécial, parce que pour moi, genre, mon album préféré de Tool, c'est vraiment Anima. Prize and Sex, je pense, qui est sur Undertow.
Ouais, je pense que c'est le premier.
Qui l'album d'avant, qui pas nécessairement, qui était beaucoup plus rock metal dans le temps, fait que c'est pas nécessairement mon album préféré, mais reste quand même que pour moi, le clip, quand j'ai découvert ça, quand j'avais genre 16 ans, je capotais. J'étais comme wow! Je pense que ça a beaucoup éveillé ma passion pour le cinéma, puis développé un peu mon goût pour l'art encore plus. Fait que,
mm-hmm.
Pour cette raison, c'est mon numéro 1.
C'était un bon choix, puis tu sais, c'était dans ma liste aussi. Je pense que ce qui m'a fait pencher au final, c'est que j'aime plus la chanson Sober. Ça fait partie de la raison un peu aussi. Mais là, c'est un clip assez percutant quand même. Là. C'est assez intense quand tu comprends un peu ce qui se passe. Là, je suis d'accord avec toi que c'est assez... c'est assez exceptionnel, puis encore une fois, l'identité visuelle, puis très unique, comme beaucoup de choses que ce band-là a fait, donc que j'ai hâte d'aller voir en spectacle dans quelques mois.
Mmh. Mon numéro 1,
ben oui, en novembre, je me souviens plus de la date, mais c'est en novembre, au Centre Bell. Mon numéro 1, Carl, je pense que ça va peut-être te surprendre.
Ok, tu es en train de me dire qu'il n'y a pas Drive Home?
Il n'y a pas Drive Home, mais
wow!
C'est une chanson de Steven Wilson, par contre.
Oh mon dieu, c'est The Raven That Refused to Sing?
C'est la chanson Routine.
Ok, wow, attends un peu.
Ça, c'est
attends.
Sur Hand Cannot Erase. Moi, je pense que c'est... là-dessus, là. C'est probablement une de ses meilleures chansons.
Ok, oui, j'ai
cette ce clip-là, bon. Ce clip-là est juste... Moi, ça je l'ai réécouté encore ce matin, puis j'ai encore eu les larmes aux yeux, là, tu sais.
C'est, oh, ouais, je comprends.
Il y a tellement de choses qui se passent là-dedans. Probablement, c'est magnifique. C'est la petite marionnette qui se promène. La maman qui a perdu, puis t'apprends à un certain point dans l'histoire que son mari et ses deux enfants se sont fait assassiner dans une tuerie d'école. Puis c'est comme une dame qui continue à vivre sa vie comme si c'est son conjoint et ses enfants étaient encore là. Elle fait leur lit, elle leur fait un petit lunch, mais il n'y a personne à la maison. Puis à un moment, elle accepte, elle réalise qu'il faut qu'elle passe à la prochaine étape de son deuil. T'sais. Puis il y a une performance d'une chanteuse dans cette chanson-là qui me donne des frissons à chaque fois. C'est une voix incroyable, c'est puissant, c'est touchant, c'est puis ça match le moment où la petite dame là, que se révolte un peu contre sa situation. Puis il y a un moment où elle sort de la maison, puis elle crie, puis la chanteuse crie au même moment, puis à chaque fois ça me percute là. Puis c'est, ça dure 10 minutes là, la chanson, puis les vidéos aussi, donc c'est quand même un court-métrage là, rendu là. C'est pour moi, c'est quand tu m'as lancé ce défi-là, je savais déjà que ça allait être mon numéro 1. Puis je l'ai réécouté, tout ce que j'ai pu me souvenir, je les ai réécoutés, puis c'était comme, il n'y a rien pour moi qui s'approche du niveau de qualité, puis de quel point c'est touchant. Puis j'aime tellement cette chanson-là aussi. Je vais rendre des fans fâchés, mais Routine, c'est mieux que tout ce qu'il y a sur In Absentia. C'est la chanson meilleure que tout l'album. Non, mais je troll un peu, je préfère vraiment... The Raven That Refused to Sing, puis A Hand Cannot Erase, c'est les 10 sur 10, ces deux albums-là, pour moi. En tout cas, peu importe, Routine, la chanson, je l'aimais déjà beaucoup, mais là, le clip, c'est comme, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? T'sais, c'est vraiment le summum, pour moi, du vidéoclip. Je pense pas que ça peut se battre, faire battre en dessous. C'est essentiel.
Wow. Ouais. Ben, est-ce que t'as pas mis Drive Home parce que c'était deux fois Steven Wilson?
Ouais, je l'ai même pas considéré à cause de ça, ouais. Je l'ai pas dit au début, mais oui, je me suis limité à une chanson parce que sinon, tu sais, ça aurait été. Tu sais, genre 3 Tool, 2 Steven Wilson, ça aurait pas été très intéressant, je pense, comme top 5. Là,
je comprends. Wow!
Si tu t'en souviens pas de ce clip-là, Carl, faut que tu retournes l'écouter.
Mais non, mais immédiatement après le plus. Non, non, je suis allé voir, puis la face du personnage, là, exactement, là, c'est juste. En fait, pour être. Tu sais, Cannot Erase, je l'ai quand même écouté régulièrement, mais j'ai moins de souvenirs que The Raven. Premièrement, il faut que j'aille me l'acheter copie physique. T'sais.
Ouais, j'en ai un, moi.
Qu'on l'avait écouté ensemble, puis c'était un album incroyable.
Ah ouais, c'est.
Je l'ai réécouté un petit peu dernièrement, puis j'étais comme, ah, c'est vrai, c'est bon cet album.
Fait que faut c'est comme la frontière entre le pop et le prog est vraiment comme lousse entre les deux, mais ça enlève rien à l'album. C'est un des meilleurs exemples de comment le prog peut être pop aussi. C'est exceptionnel.
Je comprends.
Fait que ça, c'est notre top 5. Ça a été quand même... finalement, on a beaucoup de choses à dire. C'était le fun. C'était super le fun.
Ben, j'adore ça, puis ça fait différent. Puis, qu'est-ce qui va être notre top 5 la semaine prochaine? Ben, pas le mois prochain, Phil.
Ben, écoute, je veux t'inviter à écouter je n'ai parlé quelques fois dans le podcast, un musicien qui m'a fait vibrer là, beaucoup, beaucoup depuis au-dessus d'un an. C'est le claviériste et chanteur Charlie Garcia qui vient d'Argentine. Avant d'avoir une carrière solo, il a fondé avec d'autres musiciens qui est considéré comme un super groupe. Là, il était connu de d'autres groupes avant. Lui, il était avec un groupe de prog très, très prog. On pourrait peut-être écouter un autre jour, mais. Il y avait un musicien de blues, il a créé un groupe qui s'appelle Ceru Girán. Et puis l'album, leur album le plus iconique, je pense que tu as beaucoup aimé la pochette d'ailleurs, qui est à mon avis leur meilleur aussi, s'appelle Las Grasas de las Capitales. Donc le gras de la capitale, qui est ce que je comprends une expression pour dire les gens riches des capitales. Donc c'est toi, c'est prog, mais c'est ben des affaires. J'ai vraiment hâte de t'entendre là-dessus. Et le top 5, vu qu'on parlait de Steven Wilson, on dirait pourquoi pas parler de son cousin metal, et faire un top 5 de nos albums préférés du groupe Opeth. Donc, c'est un groupe que j'ai découvert beaucoup les dernières années, que j'aime beaucoup, chez Carl aime ça aussi. Et avant de conclure, deux autres trucs que j'aimerais souligner. D'abord, remercier bien entendu Danny Gravel, notre phénoménal producteur, qu'on remercie du fond du cœur pour son support indéfectible.
Oui.
Et j'aimerais aussi faire une petite publicité. Vous vous souvenez peut-être de notre ami Francis, qui on a invité il y a longtemps de cela, pour faire un épisode avec nous. Et lui et moi avons lancé un nouveau balado, qu'on a lancé officiellement, publiquement, là, qu'on essaie de pousser là, cette semaine, la semaine passée. Ça s'appelle « Capitaine cinéphile contre Dr. Snob ». Je vous invite à aller écouter ça. C'est un balado où Francis, capitaine cinéphile, qui est comme le nom le dit, un cinéphile, qui travaille dans le milieu du cinéma, qui a lu beaucoup sur le cinéma, qui est un passionné, et un fan de la MCU, donc la Marvel Cinematic Universe. Et Dr. Snob, qui est moi, comme vous savez, critique, parfois un peu snob, parfois un peu intense, qui n'a jamais écouté la MCU, qui n'a aucun intérêt pour ces films-là, on traverse ensemble cet univers-là. C'est les premières fois que j'écoute tous les films, ça a quelques petites exceptions, mais... j'en fais une critique, une réflexion, une analyse, Francis nous propose des informations sur le tournage, les éléments techniques, on a beaucoup de plaisir à faire ça, on est rendu à l'épisode 9 déjà. Allez voir ça si vous voulez. Si vous aimez les gars du prog, c'est un peu dans la même famille, c'est un peu la même mentalité, deux amis qui se jasent. Donc, si vous aimez ce concept-là, cette formule-là, je suis presque sûr que vous allez aimer cet autre balado-là. Le lien vers... la page Spotify et autres se trouvera dans la description de cet épisode-ci. Donc, voilà, je pense que c'est ça. Si c'est ça, ben, je vais te laisser le mot de la fin.
Oh mon Dieu, j'adore toujours ce moment-là. Alors, allez écouter Alan Ellsworth, mais surtout, vive le prog!